écouter et réécouter. CFM Keylus sur cfmradio.fr.
J'aimerais tant varier les endroits où on sort, mais avec ce budget si serré, fini les tracas. Pour des sorties sympas, l'arme absolue, c'est le guide Pastime.
Pastime ?
Pastime, c'est le guide d'ici. Il offre une large sélection de restaurants, de loisirs, de commerces, avec des réductions allant jusqu'à 50%.
Génial ! Avec tant d'avantages, Pastime est accessible à tout le monde ?
Oui, tu sors sans compter pour découvrir et redécouvrir. Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Eh, hey, on sort ce soir.
Oh, tu connais Classe Karaoke Box ?
Ah bah non, c'est quoi ?
Tu loues un box pour 2 heures pour chanter en toute intimité avec tes amis ou en famille.
Ah bah génial, surtout si t'es timide comme moi.
Dans chaque box, tu peux commander à boire et à grignoter. Et il y a aussi une salle commune où tu peux chanter devant les autres et être la star d'un soir.
Ouais bah j'adore, hein, c'est où ?
200 avenue d'Espagne à Montauban et tu peux réserver ta box directement sur leur site classe-karaoke-box.fr. KLAS-karaoke-box.fr.
Allez, je réserve.
Là, sors, sors! Oh non, trop tard, t'as loupé la sortie.
Bon, bah, va falloir attendre la prochaine.
On ne peut pas quitter l'autoroute quand on veut, alors que sa mutuelle, si. En famille, à deux, indépendant, senior, chez Previfrance, il y a tout pour comparer, estimer et simuler la couverture santé dont vous avez réellement besoin. Découvrez les garanties sur previfrance.fr et bénéficiez jusqu'à 3 mois de cotisation offerte. Offre soumise à condition.
Depuis 4 ans, l'entreprise RMA12 vous rachète les métaux qui encombrent vos espaces. Oui, vous avez bien entendu, cuivre, alu, fer, batterie, ils rachètent même les véhicules. Comment ça marche? Chaque métal a son prix au kilo. Particulier ou professionnel, ne jetez plus, vendez. Une équipe disponible et agréable vous accueille chez RMA12 dans la zone artisanale de Bel Air à Rodez. Vous voulez en savoir plus? Nous vous invitons à consulter notre site internet rachametaux-aveyron.com. RMA12, rachat métaux Aveyron.
Du 1er au 7 novembre, foire au gras à la ferme des Casalous. Lundi et mardi et mercredi après-midi de 16h à 18h, sur réservation, atelier par groupe de 15. Apprentissage à la découpe, fabrication et cuisson de son foie gras avec masque et respect des gestes sanitaires. À la ferme des Casalous, repas sur réservation le vendredi 5 novembre à partir de 19h. Le canard sous toutes ses coutures au tarif de 15€. Et à 20h30, suivra son concours de belote avec de nombreux lots. Réservation, Bruno au 06 15 26 33 65.
À Puy-la-Roque, Nègrepelisse et La Guépie, vous écoutez CFM Keylus. CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour et merci d'être là. Ce MAG est consacré aux chauves-souris, ou plutôt à l'annonce de fermeture de 2 grottes comme mesure de protection des chauves-souris. Ça nous pendait au nez à force de ne pas respecter les panneaux interdisant d'entrer dans les grottes en période d'hibernation ou de mise bas. Ce sera pour la deuxième partie de ce MAG. Avant ça, on vous propose des ateliers numériques.
CFM.
Pour lutter contre l'exclusion et la fracture numérique, des ateliers numériques sont mis en place un petit peu partout sur le territoire, notamment grâce au conseil départemental, à l'État, au Fonds social européen. L'exemple sur la communauté de communes Quercy-Rouergue-Gorge de l'Aveyron avec l'attaché de direction, François-Xavier Bonvoisin. Bonjour.
Bonjour.
La conseillère numérique Nina Vivias. Bonjour.
Bonjour.
Et pour l'EREF, l'espace rural emploi formation, Laetitia Gomez. Bonjour.
Bonjour.
Conjointement, vous mettez en place donc des ateliers numériques gratuits pour un petit peu apprendre à écrire un email, à se servir d'Internet, de ses smartphones. Alors, première question, une nécessité sur le territoire ?
Je pense que sur l'ensemble du territoire, on peut constater parfois des carences ou des lacunes et sans chercher bien loin. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui peut avoir des difficultés avec l'outil numérique, que ce soit pour ses loisirs, pour ses démarches administratives. Et effectivement, tous ces dispositifs qui ont pu être mis en œuvre vont participer à essayer d'apporter des solutions à ces personnes.
Il y a un contexte, il y a eu un besoin, une urgence ?
La crise de Covid a accéléré la numérisation de la société et a laissé sur la marge des personnes qui étaient en situation d'exclusion numérique ou en situation d'électronisme.
Alors, dans le cadre de l'espace rural emploi-formation, ça marche particulièrement pour les demandeurs d'emploi ?
Et pas que. Donc, les ateliers de lutte contre la fracture numérique sont ouverts à tous les publics, quel que soit leur âge et leur statut. La volonté, c'est de pouvoir dédramatiser l'utilisation du numérique, le surf sur Internet, la création d'une boîte mail, l'envoi d'email, en créant du lien. Donc pour cela, on a choisi en fait une formule conviviale avec des petits ateliers qui sont composés de 4 à 5 personnes et qui sont vraiment ouverts à toutes les personnes, quel que soit leur statut. L'objectif, c'est aussi que ce soit convivial et qu'il puisse y avoir des échanges entre les participants.
Et dans une véritable proximité géographique, il y en aura un petit peu partout, de ces ateliers. Nina, vous allez en animer ? On peut avoir des exemples de ce que vous allez proposer ?
Oui, c'est prévu. Du coup, on a fait un programme sur les 3 prochains mois, novembre, décembre et janvier, en collaboration avec les REF et la conseillère numérique de la mairie de Parizeau. Il y aura des ateliers numériques à titre de 2 par semaine, le lundi et le vendredi, qui seront animés avec un thème différent par mois, dont les emails, comme on a parlé précédemment, la navigation sur Internet et tout ce qui est applications sur les tablettes ou les téléphones.
Vous êtes formée, vous êtes conseillère numérique, vous êtes formée en formation ?
Alors, je suis actuellement en formation, dont j'ai presque fini, dans une semaine de conseillère numérique.
Il y a un matériel nécessaire, vous mettez à disposition donc les smartphones, les tablettes, les postes d'ordinateur, la connexion Internet bien sûr.
Alors les personnes viennent si elles peuvent avec leurs ordinateurs portables, ça leur facilite leur démarche une fois qu'ils rentrent à la maison, c'est plus facile d'apprendre sur son propre matériel. Mais on a à disposition des ordinateurs portables pour les ateliers et pour les personnes qui ont envie de se mettre à l'informatique mais qui n'ont pas encore... Le pas.
Ça peut faire peur, hein. Ça peut faire très très peur pour des personnes qui donc, sont exclues du numérique, de tout d'un coup se devoir faire des doubles clics pour ouvrir des dossiers et non pas un clic. Pourquoi ça marche pas, deux, un
C'est pour ça qu'il faut absolument pas rester seul et qu'il faut ne pas hésiter à venir aux ateliers. Nous, on n'est pas là pour... on est là pour dédramatiser, voilà. On n'est pas là pour faire pour ou pour faire à la place de la personne, mais on est là pour faire avec elle, pour les aider, pour les accompagner, pour essayer à les aider à surmonter cette peur qu'elles peuvent avoir, cette crainte, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience une fois, parce qu'une fois elles ont appuyé sur une touche, elles sont restées bloquées. Non, il faut pas rester sur ces échecs-là. Il faut s'appuyer en fait sur l'offre que nous proposons ici sur le quartier Rouergue et des Gorges de l'Aveyron pour pouvoir être guidé, pour pouvoir aussi s'apercevoir que ben on n'est pas seul, que les autres qui sont dans le groupe, ben eux aussi ils rencontrent des difficultés et que c'est comme ça, petit à petit, qu'on va pouvoir en fait apprivoiser l'ordinateur et arriver à réaliser ses démarches.
Et puis il y a aussi une recherche de gagner en autonomie pour ces personnes, que ce soit, comme on disait, à la fois pour des aspects ou des considérations professionnelles ou administratives, mais aussi pour le loisir. On pense par exemple aux personnes âgées, afin de maintenir un lien peut-être aussi avec la famille, parfois avec maintenant des applications d'appels vidéo, ce genre de choses. On voit bien, le Covid l'a montré, comme on le rappelait tout à l'heure, qu'il peut y avoir parfois une distance qui se crée, et ces outils-là, si tant est qu'on arrive à les maîtriser, peuvent participer à rapprocher les personnes avec leurs proches. Donc il y a vraiment une volonté de faire gagner à ces personnes une forme d'autonomie avec ces outils, leur montrer, comme on disait, que finalement c'est pas si compliqué que ça, qu'on n'est pas tout seul. Et puis aussi, on essaie d'adapter, on va dire, l'offre sur le territoire aux différents besoins. On a parlé des ateliers collectifs, hein, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, pour essayer d'expliquer un peu cette offre. Mais il y a aussi, toujours gratuit, bien évidemment, des ateliers individuels, aussi des événements peut-être ponctuels qui pourront voir le jour sur des publics précis ou des thématiques précises. Pourquoi pas les seniors, pourquoi pas les jeunes, pourquoi pas les demandeurs d'emploi. Voilà, c'est un sujet finalement qui peut être décliné de beaucoup de manières différentes et qu'on va essayer de traduire sur le territoire afin que chacun y trouve son compte.
C'est une offre gratuite à laquelle il faut tout de même s'inscrire, des ateliers d'une durée de 2 heures pour les ateliers numériques sur la communauté de communes quartier Rouergue-Gorges de l'Aveyron. Un projet qui est financé comment, qui sort d'où? Alors on parlait de l'État, du Conseil départemental, du Fonds social européen, sachant que ces ateliers, il y en a absolument partout sur le territoire, le but étant au plus près des personnes qui ont besoin de ces ateliers numériques.
Alors pour ce qui nous concerne, à l'EREF, l'Espace Rural Emploi Formation de Saint-Antonin, nous avons répondu à un appel à projet lancé par le Conseil départemental dans le cadre d'un dispositif de lutte contre l'exclusion. L'opération s'appelle Plan Local Insertion Emploi en quartier Rouergue et Gorges de l'Aveyron et est cofinancée par le Conseil départemental du Tarn-et-Garonne, par les fonds sociaux européens et par la commune de Saint-Antonin-Nobleval.
Après, comme vous l'évoquiez, il y a effectivement une politique assez large en la matière à l'échelle nationale. Qui porte le nom de conseiller numérique. C'est quelque chose qui se rattache aussi aux maisons France Service. C'est peut-être des termes que les auditeurs ont pu entendre ou voir dans des campagnes de pub, par exemple.
Les ex-maisons de service au public, la conseillère nous permet de l'aide sur nos impôts, les cartes grises, la CAF, un petit peu tout ça se rejoint complètement. Là.
Voilà, donc c'est vraiment une politique, on va dire, assez globale, qui a vocation à se décliner un peu partout sur les territoires. Pour rapprocher les Français soit de l'administration, soit aussi de l'outil numérique, là, dans le cas qui nous intéresse.
Là, on est sur un territoire extrêmement rural, ce qui, je pense, influe.
Oui, effectivement, le fait d'être un territoire très rural implique aussi des distances parfois importantes avec une question de mobilité. Donc c'est vrai que si on permet, pour reparler par exemple des personnes âgées ou des personnes, des demandeurs d'emploi ou choses comme ça, de gagner en autonomie, en compétences sur l'outil numérique, on va leur faciliter d'une certaine manière la recherche d'emploi pour les uns, le maintien du lien social pour les autres, j'en parlais à l'instant. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt effectivement pour tous ces publics à s'emparer du numérique et de ces outils.
On peut retrouver tous les renseignements, du moins sur la communauté de communes, sur le site de la Comcom, sur les réseaux sociaux, ou en contactant l'IREF, l'espace rural emploi formation, ou bien en se renseignant auprès de la mairie, la plus proche de chez nous, puisqu'il y a de ces ateliers numériques un petit peu partout sur le territoire. C'est entièrement gratuit, puisque déjà financé, le but étant donc de lutter contre l'exclusion et contre la fracture numérique. Nina Vives, conseillère numérique, Laetitia Gomez pour l'espace rural emploi formation de Saint-Antonin Nobleval et François-Xavier Bonvoisin, l'attaché de direction pour la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorge de l'Aveyron. Merci beaucoup.
Merci.
Et la suite de ce mec du Tarn-et-Garonne après la musique à propos de la mise en défense de deux grottes pour protéger les chauves-souris.
CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
C'est un enjeu national, voire international, la mise en défense de deux grottes dans le Tarn-et-Garonne et dans le Lot pour protéger les chauves-souris qui y habitent. Et c'est une opération menée conjointement par le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, et sous l'égide de Natura 2000, dont fait partie François Léger. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes animateur de ce réseau en Tarn-et-Garonne, sur les gorges de l'Aveyron et sur le Causs de Gossou. Donc, deux grottes ont été fermées pour empêcher les gens, les visiteurs, les spéléos, les escaladeurs de montagne d'aller réveiller les chauves-souris.
Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, le but, c'est pas stigmatiser qui que ce soit. Hein, mais on avait certaines personnes qui malheureusement, accédaient à ces cavités dans des périodes qui étaient parfois pas optimales et qui entraînaient des dérangements avec des conséquences qui pouvaient être très néfastes sur ces populations de chauves-souris. Il faut savoir que ces deux grottes, donc la grotte du Capucin et la grotte du Figuier, ce sont des grottes où on peut retrouver plusieurs milliers d'individus lors des mises bas. Et donc, on a des enjeux internationaux et nationaux qui avaient été identifiés sur ces cavités-là et on se devait de mettre tout en œuvre pour les préserver.
La chauve-souris, ces chauves-souris, pardon, il y en a plusieurs espèces, étant protégées.
Oui, comme toutes les chauves-souris d'ailleurs au niveau national. Mais là, en plus, il s'agissait d'espèces avec des enjeux d'autant plus forts tels que le Minioptère de Schreber ou le Grand Murin.
Il y a deux périodes dans lesquelles il ne faut pas déranger les chauves-souris. Il y a la période de mise bas et la période d'hibernation.
C'est ça, grosso modo. Alors, on a une première période donc, qui est celle de mise bas et autre qui va du mois de mars à peu près à septembre-octobre. Et après, on a une période d'hibernation qui va plus d'octobre-novembre jusqu'à fin février, début mars. Et il faut savoir que ces deux périodes-là ne peuvent pas exister sur toutes les cavités. C'est-à-dire qu'on a des cavités où on a uniquement de la mise bas ou bien uniquement de l'hibernation.
Donc a priori, ces grottes pouvaient ne pas être fermées tout au long de l'année. Il y avait déjà des petits panneaux indiquant aux visiteurs à quelle période est-ce qu'ils pouvaient ou pas rentrer dans les grottes. Apparemment, ça n'a pas été d'une utilité flagrante.
Disons que c'est un peu comme pour tout. Certaines personnes respectaient et l'immense majorité étaient respectueuses. Mais il arrivait que d'autres soient un peu moins regardants, on va dire, et la tentation était sûrement trop forte de rentrer dans la cavité et d'occasionner, malheureusement, parfois, sans le vouloir, hein, mais des dérangements à ces populations fragiles.
Qui, quand elles hibernent, ne doivent pas être réveillées, parce qu'en se réveillant, elles crament toute l'énergie dont elles auront besoin, et en se rendormant, ne peuvent pas se réveiller une deuxième fois, surtout s'il n'y a pas d'insectes pour les nourrir à leur réveil.
C'est ça, en fait, une consommation d'énergie qui est bien trop forte à une période où ils ne peuvent pas forcément emmagasiner en consommant des proies. Et de l'autre côté, durant la période de mise bas, le dérangement d'une colonie peut entraîner un effet d'affolement. En fait, les chauves-souris peuvent se mettre à s'envoler un peu d'un coup, occasionnant des chutes des juvéniles qui sont accrochés directement au sol sans la capacité de voler totalement, mal maîtriser et donc s'écraser au sol et induire une mortalité assez, assez conséquente.
Ça arrive souvent, ces procédés de mise en défense ?
C'est quelque chose qui se fait ci et là. Alors, c'est pas ce qui se fait, on va dire, tous les jours, hein, bien évidemment, puisque c'est un processus qui est relativement long. Ça nécessite la mobilisation de beaucoup de structures, aussi bien locales, régionales, voire nationales. Mais c'est des choses qui peuvent se faire effectivement et qui existent sur le territoire. On ne va pas se cacher aussi que ce sont des procédures qui sont relativement coûteuses, qui sont prises en charge par ce qu'on appelle des contrats Natura 2000, qui sont financés d'une part par les services de l'État français et de l'autre par des fonds européens. Et donc, c'est des choses qu'on ne pratique pas non plus tous les jours, mais c'est un levier qu'on peut actionner.
On passe normalement plus par la pédagogie avant la sanction.
Tout à fait. Alors voilà, c'est vraiment ce qui est fait depuis des années et des années. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que les enjeux sont beaucoup trop forts et que, au-delà de la pédagogie, on est obligé de prendre des mesures un petit peu plus drastiques pour préserver notre patrimoine en commun.
Et alors, outre qu'on ne peut plus y accéder à ces grottes, si on essaye quand même, si on grimpe par-dessus le grillage, là, il y a des PV qui peuvent tomber.
Il faut savoir que sur la grotte du Figuier, donc une des localités où on avait procédé à cette mise en défense, il y avait déjà avant qu'elle soit fermée, ce qu'on appelle un APPB, un arrêté préfectoral de protection de biotope, qui est en fait un outil qui interdisait l'accès de telle à telle période, donc c'était pendant la mise bas, hein, de mars à septembre grosso modo, qui interdisait l'accès à toute personne à ces cavités si un agent de l'OFB, c'est-à-dire l'Office français de la biodiversité, vous voyez en train d'accéder à ces grottes durant la période qui était proscrite, il était en capacité de vous dresser un PV.
Ce qui n'est pas le rôle des animateurs du réseau Natura 2000.
Ah non, non du tout. On n'a pas vraiment ce type de prérogative-là. L'animation Natura 2000 est véritablement basée sur la pédagogie et sur la sensibilisation du grand public. On n'a aucune action de police, aucun pouvoir de ce type.
Natura 2000 qui mène très régulièrement des actions sur le territoire, des journées nature, des sorties, des conférences, des balades, qui anime sa propre chronique sur les ondes de CFM Keilus, et dont on voit fleurir les panneaux le long des sentiers qui font un focus sur telle orchidée, tel papillon, tel arbre. C'est la fonction première du réseau Natura 2000.
C'est ça, alors ça c'est effectivement le volet communication, sensibilisation, pédagogie sur Natura 2000 est relativement important. Après on a tout aussi un volet connaissance des milieux et gestion des milieux, soit par des actions typiquement comme on a mis en place là, avec cette fermeture de cavité, hein, qui est une action de gestion, mais ça peut aussi passer par du conseil aux propriétaires pour avoir une gestion plus douce ou plus adaptée aux enjeux écologiques sur son territoire. Et on a aussi tout un volet réglementaire où en fait on assure une sorte de portée à connaissance en quelque sorte et une veille auprès des porteurs de projets pour les avertir que sur ce territoire où ils envisagent d'avoir tel ou tel projet, travaux, développement, eh bien il y a un site Natura 2000 avec divers enjeux à prendre en compte, la façon de les prendre en compte, et voilà tout plein de petits conseils de ce type.
On peut les retrouver, ces conseils, notamment sur Facebook, en tapant Natura 2000. Vous êtes sur le Gorge de l'Aveyron et Causse de Gossou, et site proche, bien dans le Tarn-et-Garonne. Donc, François Léger, animateur du réseau Natura 2000, merci beaucoup.
Merci à vous.
On termine ce mag en musique, ce mag à retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr qui sera aussi rediffusé à 17h et à 21h30. Les infos après Els Bells. À célébrer.